Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je me présente Pascale Rayun, agente culturelle à la direction de la programmation. Dans le cadre de ces grandes conférences, Bibliothèque et Archives nationales du Québec est heureuse d'accueillir la tenue de la conférence d'aujourd'hui, intitulée « La littérature au Québec de 1760 à 1800 », prononcée par le professeur Bernard Andrez de l'Université du Québec à Montréal. Cette conférence est offerte dans le cadre d'un partenariat entre Bibliothèque et Archives nationales du Québec et la Société des 10, dont M. Andrès est l'un des distingués membres. Elle sera suivie d'une période de questions. Je voudrais maintenant présenter notre partenaire. La Société des 10 regroupe 10 spécialistes de l'histoire du Québec et de l'Amérique française. Leurs travaux, qui portent autant sur l'archéologie de la Nouvelle-France que l'histoire contemporaine, l'ethnologie, l'histoire des Amérindiens, de la littérature, de la musique ou de la société de consommation, paraissent chaque année, depuis 1936, dans les cahiers des 10. À partir de l'automne 2007, et toujours dans le cadre de ce partenariat, la Société des 10 présentera un autre cycle de conférences dont le contenu sera communiqué dans notre programmation de l'année 2007-2008. La conférence de M. Andrès est enregistrée et vous pourrez la réentendre en balado-diffusion sur notre portail Internet. J'aimerais également vous aviser que cette conférence est photographiée. Nous nous excusons donc pour les inconvénients que cela pourrait causer en termes de flash ou de bruit. Enfin, je vous demanderai d'éteindre vos cellulaires. Sans plus tarder, je cède la parole à M. Bernard Andrès et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, Madame Ryan. Je commence par éteindre le mien aussi. C'est une bonne chose. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir et d'intervenir dans ce partenariat avec la bibliothèque. Vous connaissez peut-être déjà la Société des 10 à travers notamment mon prédécesseur Yvan Lamonde, qui est intervenu il n'y a pas longtemps ici même. Et pour plus de renseignements sur cette société, je vous invite à vous rendre sur notre site internet qui se trouve à l'écran et dont vous avez aussi l'adresse sur un dépliant à l'extérieur, de façon à vous familiariser avec nos activités, mais aussi à avoir accès aux cahiers des 10 qui sont publiés depuis 1936 et dont la majorité des exemplaires a été numérisée et peut-être accessible à travers notre site en question. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qu'on n'aurait pas osé aborder il y a une quinzaine d'années, étant donné qu'on n'imaginait pas qu'il puisse y avoir une production culturelle et une production lettrée avant le 19e siècle au Québec. Donc j'ai intitulé ça « La littérature québécoise de 1760 à 1800 ». Et je commencerai par un petit préambule. Quant au lendemain des rébellions de 37-38, Lord Durham rédige le fameux rapport où il recommande l'assimilation du peuple canadien-français. Il mentionne parmi ses nombreux arguments l'aspect culturel. Cette nationalité canadienne-française, comme il la nomme, serait, disait-il, dépourvue de tout ce qui peut vivifier et élever un peuple, du fait qu'ils ont gardé leur langue et leurs coutumes particulières. Et il ajoute cette phrase terrible, qui sera longtemps perçue comme une insulte à la collectivité canadienne-française, « C'est un peuple sans histoire et sans littérature ». Tout le sursaut culturel des années 1850-1860 peut être perçu comme une réponse à cet anathème. Depuis l'histoire du Canada de François-Xavier Garneau jusqu'au mouvement littéraire de l'abbé Casgrain avec les soirées canadiennes et le foyer canadien, mais aussi avec le répertoire national de James Houston. Cette compilation de Houston s'intéresse en 1848 à, je cite, « tout ce qui peut consolider et faire briller notre nationalité ». Alors, autant les œuvres des années 1850-1860 allaient témoigner d'une nouvelle production lettrée, autant les 1500 pages du répertoire national, paru en 1848, allaient recueillir les textes antérieurs, dont ceux précédant justement la venue de Durham.
Alors on peut se demander comment ce dernier avait pu se tromper aussi grossièrement sur les Canadiens. Préjugé d'un Anglais mandaté pour justifier l'assimilation d'un peuple conquis. Il y a beaucoup de cela dans son rapport, même si par ailleurs il traite les Canadiens de, je cite, « peuple aimable, vertueux et satisfait ». Mais une lecture attentive montre aussi que son point de vue est faussé par la distinction qu'il opère entre les Français du Canada et les Français de France. Sa fameuse phrase doit s'entendre comme « c'est un peuple sans histoire et sans littérature propre à lui », c'est-à-dire à ce peuple. Au demeurant, Durham ne nie pas que les Canadiens soient sans littérature. Si on relit attentivement la linéa qui suit, il leur reconnaît une familiarité avec la littérature française, avec l'instruction, avec le plaisir de la lecture. Je cite « La seule littérature qui leur est familière est celle d'une nation dont ils ont été séparés par 80 ans de domination étrangère, davantage par les transformations que la Révolution et ses suites ont opérées dans tout l'état politique, moral et social de la France ». Toutefois, ajoute-t-il, c'est de cette nation dont les sépare l'histoire récente, les mœurs, les mentalités, que les Canadiens français reçoivent toute leur instruction et jouissent des plaisirs que donnent les livres. Alors, le problème de Durham, c'est qu'il leur dénie la filiation culturelle avec la France. Il refuse ici, bizarrement, de considérer cet héritage dans leur propre pratique culturelle. Pourtant, autre bizarrerie, dans un autre passage de son rapport, il reconnaît dans des termes laudatifs cette filiation avec la France d'ancien régime. Il dit, je cite, « Leur nationalité est après tout un héritage, et ils ne doivent pas être trop sévèrement punis parce qu'ils ont rêvé de maintenir sur les rives lointaines du Saint-Laurent et de transmettre à leur postérité la langue, les usages et les institutions de cette grande nation, la France, qui pendant deux siècles donna le ton de la pensée au continent européen. » Pas trop sévèrement puni, vous avez bien entendu. La punition sera, on le sait, l'Union des Canadas. Mais revenons à l'époque antérieure, celle du Bas-Canada, c'est-à-dire des années 1790 aux années 1830. Comment Durham a-t-il pu méconnaître les premières manifestations littéraires propres aux Canadiens ? Parce qu'elles étaient animées par quelques Français de France, comme il le soutient dans son rapport ? Je reviendrai plus loin sur cet aspect. Il semble que l'opinion de Durham sur l'activité culturelle des Canadiens soit plutôt le fait de son ignorance à ce sujet, ou du moins de sa distraction. L'historien du théâtre André G. Bourassa avait déjà soulevé la question en contestant l'idée que, selon Durham, la province serait dépourvue de lieux scéniques francophones, contrairement aux colonies anglaises. Bourassa s'en étonnait d'autant plus que, lors de son séjour à Québec, Durham occupait précisément l'hôtel particulier de Charlotte Chartier de Lotbinière, où se trouvait une salle superbe. Il oublie aussi que les francophones, Durham oublie que les francophones avaient des écoles d'art, de littérature, de musique, de théâtre. Il oublie qu'ils ont produit le premier journal de Montréal, on va le voir tout à l'heure, la première édition de pièces de théâtre en Bas-Canada, le premier opéra du Canada. Il omet de dire que les Britanniques avaient emprisonné aussi des familiers du théâtre qui avaient des idées républicaines comme de Salles-la-Terrière, Ducalvé, Jotard, Méplé et Quesnel, en plus de ceux que les Américains avaient emprisonnés pour des raisons contraires, etc. Donc ces précisions apportées sur la vie théâtrale canadienne-française des origines, qu'en est-il plus largement de la vie culturelle et littéraire des tout débuts du régime anglais ? Alors ce préambule me conduit à présent à l'objet même et à la période visée par cette conférence, les années 1760 à 1800, et à ce que j'appelle l'archéologie du littéraire, ALAC, qui est le projet que j'anime depuis 15 ans et qui vise à sortir de l'oubli, si vous voulez, les textes de cette période éloignée. Je vous donne ici l'adresse internet aussi de notre projet ALAC, où vous pourrez trouver énormément de renseignements, ainsi que des bibliographies, des chronologies et des transcriptions de textes anciens, etc. Alors, à la façon d'archéologue ou de généticien, j'étudie donc avec mon équipe depuis une quinzaine d'années les premières manifestations littéraires risquées au Québec, puis au Bas-Canada, entre la conquête anglaise et le tournant du 19e. C'est le matériau textuel de ces fouilles et le corpus de ces analyses que nous venons de publier dans un volume qui s'appelle « La conquête des lettres au Québec » aux presses de l'Université Laval. C'est une anthologie. Donc, que faut-il entendre par archéologie du littéraire et pourquoi considérer l'époque lointaine du XVIIIe comme point de départ d'une littérature francophone d'Amérique ? Pour bien comprendre la nécessité de remonter à cette époque, faisons un détour par le XXe siècle. Ceux qui s'intéressent au Québec et à sa culture estiment généralement que le véritable commencement d'une littérature québécoise date des années 1960-1970, époque à laquelle le Québec aurait accédé à la modernité, cette fameuse révolution tranquille, période durant laquelle la belle province se dota d'institutions culturelles solides, s'émancipa de la tutelle religieuse catholique, contesta aussi de plus en plus vivement le lien fédéral. Les 30 dernières années ont été marquées par ce fort mouvement d'émancipation politique, avec les hauts et les bas que l'on sait, d'un référendum, d'une élection à l'autre. Alors que s'est-il donc passé au Québec depuis une trentaine d'années qui expliquerait cette hésitation des Québécois ? Certains parlent de leur ambivalence, notamment Yvan Lamonde, face à l'avenir, mais aussi face au passé. Retournons la question et demandons-nous plutôt, que ne s'est-il pas passé voilà plus de deux siècles qui expliquerait la situation actuelle ? Quel rendez-vous manqué avec l'histoire permettrait peut-être de comprendre l'évolution particulière de la collectivité québécoise à qui l'on reconnaît aujourd'hui le statut culturel de nation, mais non pas le statut politique ? C'est pour répondre à toutes ces questions que je m'intéresse à l'origine des lettres québécoises en l'appréhendant dans les années 1760-1800. Car le XVIIIe siècle marque bien un départ et des origines. Départ de la France et fin de la Nouvelle-France en 1760, origine du Québec comme province et comme collectivité nouvelle accédant alors à la culture lettrée. Je rappelle que ce sont les Britanniques qui rebaptisent la Nouvelle-France « Province of Quebec ». Ici, comme dans la plupart des populations émigrées aux Amériques, le XVIIIe siècle correspond à la gestation d'un nouvel identitaire. Au moment du changement d'allégeance, au début du régime anglais, les Canadiens sont désormais conscients de n'être plus français, ça c'est clair, mais pas plus anglais non plus, ou pas plus américain. Je précise à présent que, à partir de maintenant, que j'utilise l'ethnonyme canadien, tel que les francophones du temps l'employaient pour s'auto-désigner. La distinction entre canadien français et canadien anglais interviendra plus tard, vous le savez, au 19e siècle, tout comme l'usage de Québécois au XXe siècle pour désigner les Canadiens français puis les citoyens du Québec. Donc, cette découverte d'un nouvel identitaire par les Canadiens au XVIIIe siècle correspond exactement à la même découverte parmi les anglophones de la côte est américaine. Eux aussi se découvrent alors américains. Avant, ils s'estimaient « British settlers », des colons, donc anglais. La différence entre les Américains et les Canadiens est que ces derniers, les Américains, concrétisent alors leur américanité au plan politique, par leur guerre d'indépendance, par la fondation d'une nouvelle nation en Amérique du Nord. Pour leur part, les Canadiens s'en tiennent alors à une neutralité bienveillante à l'égard des Américains et ils restent au Québec dans le giron de l'Empire britannique, en compagnie des loyalistes anglais. Alors, et la littérature dans tout cela, j'y arrive. Rappelons d'abord que les Canadiens des années 1760-70 ont tout à la fois découvert leur canadianité et la littérature. C'est la rupture d'avec la France, c'est-à-dire l'ancienne mère patrie qui devient une mère partie, sans jeu de mots, c'est la rupture d'avec la France qui les a placés face à eux-mêmes et à leur destin américain. Mais c'est la même rupture qui les a aussi exposés à quelque chose dont la France les avait privés, l'imprimerie. Alors, 1764, la Gazette de Québec, 1778, la Gazette de Montréal. La première presse arrive effectivement en 1764 avec deux imprimeurs qui viennent des colonies anglaises. Avec l'imprimerie arrivent les premières publications, les gazettes, les livres, les brochures. C'est d'abord bilingue la Québec Gazette, Gazette de Québec, puis unilingue la Gazette littéraire de Montréal. Cette littérarisation de l'espace culturel doit s'entendre au double sens d'émergence de la littérature et aussi d'alphabétisation. Émergence de formes littéraires comme le poème, la chanson transcrite dans les journaux, apparition de récits, de débats d'idées, portant aussi bien sur la mode vestimentaire que sur les auteurs à la mode. Nous verrons tout à l'heure comment Rousseau et Voltaire ont la bonne idée de mourir en 1778, et ce dernier surtout va occuper un grand espace éditorial dans la Gazette de Montréal, où l'on discutera aussi de la fondation d'une académie voltairienne dans la province, comme on le verra. Rappelons également que dans le premier numéro de la Gazette de Montréal, le 3 juin 1778, le premier article après l'avis de l'imprimeur porte sur la découverte des lettres de l'alphabet. Non pas que les Canadiens n'aient pas été initiés sous le régime français à la lecture et à l'écriture, vous le savez, les religieux les enseignaient dans leurs collèges et séminaires depuis le XVIIe siècle, les jésuites comme les sulpiciens, et à propos des sulpiciens, dont on sait le rôle qu'ils jouèrent dans l'éducation à Montréal, vous savez qu'on fête aujourd'hui le 350e anniversaire de leur arrivée en Nouvelle-France, et vous avez d'ailleurs une très belle exposition à l'heure actuelle sur la rue Vigée aux archives sur la bibliothèque des sulpiciens. Certes, donc, des livres venus d'Europe circulaient déjà en Nouvelle-France et des bibliothèques privées s'étaient peu à peu constituées chez des particuliers ou dans des institutions religieuses. Mais la nouveauté en 1764, c'est que l'imprimé se trouve à présent produit sur place, conçu, composé, diffusé pour la population locale. L'écrit n'est plus destiné à la seule métropole, mais s'adresse au lectorat de la province et il s'interroge aussi sur le niveau linguistique et intellectuel des coloniaux. La Gazette littéraire de Montréal, datée du 17 juin, porte sur l'apprentissage comparé de la langue latine, par exemple, et de la langue française dans les collèges au Québec. Le français, y lit-on, devrait supplanter le latin au nom de l'utilité publique. L'utilité publique aussi, grande notion, le bien public. Cette notion devient centrale dans l'esprit des journalistes qui forment précisément l'opinion publique. La chose primordiale à cette époque est le passage de l'espace privé à l'espace public. La publicité, comme on disait à l'époque, qui n'est pas la pub d'aujourd'hui, c'est le fait de passer à l'espace public, la publicité des débats qu'autorise l'imprimé contribue à exciter l'émulation des nouveaux sujets anglais, c'est ainsi qu'on appelle les Canadiens d'un point de vue anglais, qui peuvent alors, comme on disait à l'époque, essayer leur génie dans les gazettes. Toujours dans l'espace public, circule au moment de l'invasion américaine du Québec en 1775-76, je vais y revenir, toute une propagande incitant les Canadiens à joindre la révolution de leurs frères américains. Je reviendrai un peu plus loin sur cette propagande et ces lettres adressées aux habitants de la province du Québec de la part du Congrès général de l'Amérique, publié à Philadelphie chez Fleury Méplet, qui est l'imprimeur français et francophone du Congrès. Et nous sommes en train de publier, Pierre Monnette a pris la direction d'une publication qui paraîtra l'automne prochain, une réédition de toutes ces lettres du Congrès avec l'équipe aussi que je dirige. Donc on voit comment les Canadiens font progressivement l'apprentissage du discours et des lettres, lettres prises au sens large que le XVIIIe siècle donne aux belles lettres, comme nous le verrons plus loin. Donc passant de la sphère privée à l'espace public, les Canadiens prennent la parole, prennent la plume dans des écrits diffusés localement sous forme manuscrite puis imprimée. Et c'est cette lente maturation que permettent de suivre les écrits de l'époque. Nous avons fait l'archéologie de ces écrits en étudiant le triple intérêt de ces productions et au plan littéraire, mais aussi sous l'angle des mentalités et du travail historiographique. Alors, notre recueil de textes raconte en quelque sorte l'avènement de cette prise de parole au siècle des Lumières, et j'aimerais dire deux mots justement sur le titre de cette anthologie, La conquête des lettres, vous parlant rapidement de la genèse du projet, de l'histoire de cette grande naissance et des principes selon lesquels nous avons organisé donc ce travail. Parler de conquête des lettres, c'est référer pour bien des historiens à une période sombre de notre histoire. Nous entendons pourtant renverser cette vision défaitiste de l'histoire et montrer comment les Canadiens de l'époque purent et surent tirer parti d'une telle conjoncture. Conquis, certes, mais aussi à la conquête d'eux-mêmes, comme en font foi les textes que nous relisons aujourd'hui. Nous y voyons les Canadiens en quête d'une littérature et d'une histoire bien à eux. En nous familiarisant avec cette période ancienne de l'histoire culturelle, nous découvrons qu'elle correspond en fait à la modernité du temps. Et la modernité du temps, c'était les Lumières et les révolutions, révolution américaine, révolution française. Et les Québécois de l'époque, les Canadiens, sont en prise sur ces événements. Nos textes ont été publiés entre l'acte de Québec, la révolution américaine, la révolution française et l'acte constitutionnel de 1791 qui marque le début de la vie parlementaire au Bas-Canada. Mais alors que le répertoire national de James Houston en 1848 ne comportait que 6 textes antérieurs à 1800, notre anthologie ne compte pas moins de 177 pièces diffusées entre 59 et 99. Pour paraphraser Robert Melançon à propos du répertoire national, je dirais que ceci constitue le premier tome de la littérature québécoise. Alors nous avons choisi de reproduire ces écrits dont la plupart excèdent le seul registre politique et touchent à d'importantes questions culturelles comme la langue, l'éducation, l'identité, etc. et qui mettent en scène à côté des Français immigrés de l'époque, des Canadiens d'origine comme Luc Saint-Luc de la Corne, Charles-François Bailly de Messin, Henri Mézières, Joseph-Antoine Plessis et quelques autres lettrés de ce que j'appelle la génération de la conquête. Donc, que dire de cette histoire de la naissance des lettres? Que dire de la portée littéraire de ce corpus et de ce qu'on entendait à l'école à l'époque par les belles lettres et la littérature? Eh bien, à l'époque, la littérature, les belles lettres, c'était beaucoup une question d'érudition pluridisciplinaire. Ça touchait aussi bien la science que les arts, les beaux-arts, les lettres, la philosophie, etc. Et donc, nous tenons compte de cette conception très généreuse de la littérature qui était celle du XVIIIe siècle et qui constitue la toute première production lettrée de la colonie laurentienne et dont la plupart de ces textes figurent parmi les incunables de l'édition canadienne et témoignent de la naissance de l'écrivain. Il faut dire une chose, c'est que, en l'absence de presse et de droits d'association sous le régime français, les marques d'une sensibilité et d'un jugement collectif ne pouvaient alors s'exprimer que dans le privé. Vous savez que la France a interdit l'imprimerie en Nouvelle-France. Bien qu'apparaissant dans un climat d'après-conquête, dont l'imprimerie et la vie associative ouvrent la voie à l'espace public et à des voix VOX qui vont s'exprimer haut et fort. Et on a là toute la préhistoire de l'opinion publique canadienne qui se joue dans ces 40 années. Vous comprenez bien qu'on n'opine pas, on n'écrit pas de la même façon dans le privé de la correspondance que dans un espace balisé par les gazettes, les fascicules, les livres imprimés, etc. Donc l'avènement du médium de la presse va influer sur les représentations d'elles-mêmes que se forge une collectivité nouvelle, pour reprendre les termes de Gérard Bouchard. Alors, comment se forge ce nouvel identitaire? Je l'ai déjà dit, les Canadiens restés sur place après la cession comprennent quand même très vite qu'ils occupent majoritairement la colonie. Donc, ils réalisent que toute puissante qu'elle soit alors, la minorité conquérante anglaise ne fera point des nouveaux sujets conquis des Anglais consentants. Pas plus que les Bostonnais révoltés ne feront de leurs frères canadiens, comme ils les appellent, des Américains soumis. Donc, entre leurs origines perdues sur un champ de bataille et le destin continental qui leur est à présent dévolu, les Canadiens doivent se définir. Et c'est la formation de cet identitaire que permet de suivre les textes de ces auteurs, qui ne sont pas des auteurs consacrés, on l'imagine bien. Ils ne prétendent pas devenir des faire œuvre, si vous voulez. Je les nomme même des proto-scripteurs pour bien montrer le stade embryonnaire dans lequel ils agissent, mais qu'ils soient commerçants, clercs, militaires, étudiants, avocats, ils aspirent quand même à créer, à formuler un nouvel imaginaire au nord des Amériques, un imaginaire en français marqué par un esprit revendicatif, voire polémique, chez ces coloniaux bousculés par l'histoire. Donc, il a bien fallu établir une petite chronologie et certaines saisons dans la vie des lettres, nous avons réparti donc les textes entre ces 5 périodes. La conquête, le trauma de la conquête, les toutes premières années, l'époque de le temps d'une paix, vous avez les dates ici, l'invasion des lettres, c'est l'invasion américaine de 1975 et la guerre d'indépendance américaine, l'occupation de l'espace public et la valse hésitation. Alors commençons par le trauma de la conquête pour parler de certains de ces textes, notamment les relations du siège de Québec, deux auteurs qui s'y sont, qui les ont racontés, et deux autres auteurs dont nous allons parler bientôt. Alors, de Lionel Groulx à Marcel Trudel et à Heinz Weidmann, on a beaucoup parlé du traumatisme de la conquête, soit pour dramatiser l'épisode, soit pour en atténuer les effets. S'est-on pourtant soucié de savoir comment les Canadiens ont effectivement vécu l'issue tragique de la guerre de 7 ans? Nous publierons d'ailleurs, pour le 250e anniversaire de 1759, un livre sur ce sujet. Alors, quels sentiments nourrissaient à l'égard de la France et de leur propre territoire ceux que Charlevoix appelait les Français du Canada ou les Créoles du Canada? Alors, cette première période rassemble les écrits portant sur la façon dont les Canadiens vivent le passage de la Nouvelle-France au régime anglais. Combien sont-ils? Entre 70 000 et 80 000. L'image qu'ils ont d'eux-mêmes croise les représentations que des étrangers se font alors de cette collectivité abandonnée sur le continent. Alors, je citerai par exemple un texte de Saint John de Crèvecœur qui est assez éloquent. Voilà ce que Crèvecœur, dont je vous parlais tout à l'heure, écrit des Canadiens d'avant la conquête. Ils étaient aussi libres que les hommes devraient l'être, sans rien qui remette en question leur liberté. Ils étaient téméraires sans être tumultueux. Ils étaient actifs sans être agités. Ils étaient obéissants sans être serviles. Ils étaient vraiment un nouveau peuple, respectable pour leurs coutumes, leurs manières et leurs habitudes. Vous avez noté un nouveau peuple, donc vraiment une population déjà distincte, marquée par une forme de canadianité bien marquée. Alors, qui était ce Saint John de Crèvecœur auquel Pierre Monette, chercheur associé à notre projet, a récemment consacré une étude magistrale qui paraîtra, elle aussi, l'automne prochain au Québec? Il s'agit de Crèvecœur d'un Français installé aux États-Unis que les Américains finiront même par considérer comme un des pères de leur littérature. L'ancien soldat des troupes de Montcalm s'appelait en fait Michel-Guillaume-Jean de Crèvecœur. Après la capitulation de Montréal, il opte pour les colonies américaines et s'y forge une nouvelle identité sous le nom de John Hector St. John de Crèvecœur. Alors, naturalisé américain, Crèvecœur devient alors cultivateur, il épouse une américaine et appelle leur fille America Frances. Je pense que j'ai quelque chose, voilà un portrait de St. John de Crèvecœur. Et il va publier justement les lettres « Letters from an American Farmer » qui vont être traduites aussitôt après en français comme « Lettres d'un cultivateur américain ». Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce livre a fait non seulement les délices des salons parisiens et européens, mais aussi des Américains et des Anglais qui voulaient émigrer en Amérique. On y voit une Amérique idyllique et bucolique, et l'auteur va même finir consul français à New York jusqu'à la Révolution. Alors, qu'il provienne d'un Normand engagé dans la guerre de 7 ans, comme Crèvecœur, d'un notaire bourguignon installé dans la colonie, ou d'une religieuse ou d'un militaire canadien, les textes des lendemains de conquête, pour reprendre l'expression de Lionel Groulx, ces textes témoignent d'une inquiétude, mais aussi d'une certitude. Cette population canadienne est bel et bien distincte des deux métropoles. Elle compte le demeurer, mais à quel prix? La réponse est esquissée dans plusieurs écrits que nous avons réédités et dont voici un certain nombre d'extraits significatifs. Alors, dans les relations du siège de Québec de 1759, on voit par exemple comment réagit une religieuse de l'hôpital général de Québec, Marie-Joseph Legardeur de Repentigny, dite mère de la Visitation. Donc, avec un sens aigu de la narration et de la dramatisation, ce récit de 1765 dresse un tableau saisissant des dommages de la guerre sur la population civile. C'est aussi l'un des premiers textes où se manifeste clairement le sentiment d'une spécificité canadienne, aussi bien par rapport aux Anglais qu'aux Français de France. Dans un autre texte de 1763, la religieuse affirmait déjà, je cite, c'est une Canadienne, « La paix que l'on vient de conclure et sur laquelle nous gémissons en voyant perdre à cette infortunée colonie le glorieux titre de la Nouvelle-France, eh bien, elle en serait encore en possession si le Canadien toujours victorieux des Anglais avait été seul à la défendre. » Donc c'est un des premiers témoignages où une Canadienne dit « si on a perdu la guerre, c'est à cause des Français, c'est pas à cause des Canadiens ». Un autre Canadien de naissance, Luc Saint-Luc de la Corne, que vous voyez ici dans tout son apparat, portraituré avec sa croix de Saint-Louis, qui est la plus haute distinction donnée par la France aux officiers, aux militaires. Donc, Luc Saint-Luc de la Corne raconte lui aussi, dans un des premiers textes publiés à l'époque, le naufrage de l'Auguste en novembre 1761. Alors l'Auguste, c'est un vaisseau affrété par les Britanniques dans le but de faire passer en France une centaine de représentants de la noblesse canadienne au lendemain de la conquête. Haut en couleur et des plus pathétiques, le récit connaîtra plusieurs versions, dont celle de 78, un incunable des presses de Fleury-Méplé. Pierre L'Espérance, spécialiste de la Corne et collaborateur de notre groupe, résume ainsi ce premier récit d'aventure du corpus québécois. Je cite « Après avoir livré le récit de cette tragédie qui ne laissa que 7 survivants sur la côte septentrionale de l'île du Cap-Breton le 15 novembre 1761, la Corne raconte les péripéties qui marquèrent son retour à pied jusqu'à Montréal après 100 jours de marche à travers la forêt enneigée. » Il revient donc de l'île du Cap-Breton à pied, en raquette, jusqu'au mois de février, en plein hiver. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'il va raconter cet épisode. Je pourrais vous donner un extrait de ce récit pathétique qui a été publié en volume, il faut bien le savoir, 10 ans avant le fameux autre récit de naufrage de Bernardin de Saint-Pierre, que vous connaissez peut-être, Paul et Virginie. Je pourrais vous signaler aussi que le peintre Napoléon Bourassa s'est inspiré de ce texte pour réaliser l'esquisse d'un tableau destiné au Parlement de Québec et qui représentait la scène tragique reprise aussi par Philippe Aubert de Gaspé dans Les Anciens Canadiens. Alors voilà un extrait de la narration de la Corne qui raconte la fin du naufrage. Lorsqu'un de mes enfants que je tenais dans mes bras et le jeune Henry attaché à ma ceinture me dirent « Sauvez-vous donc, la chaloupe est à l'eau !» Je saisis alors avec beaucoup de précipitation un cordage, je me glissai jusqu'à une certaine portée et au moyen d'une secousse violente, je m'élançai et tombai heureusement dans la chaloupe, mais je perdis alors mon fils et le petit Henry, et donc il va perdre une partie de sa famille dans ce naufrage. Alors, resté à Québec après cet épisode, le vieux Lacorne va s'engager, la paix revenue sous les drapeaux anglais, et le plus ancien de nos écrivains canadiens mourra en 1784, après avoir défendu jusqu'au bout son honneur et celui de ses compatriotes, comme on le verra plus loin. Alors, passons à la deuxième période de notre préhistoire littéraire, les années 1764-74, que j'ai appelé donc le temps d'une paix, et qui marque, entre le traité de Paris et l'acte de Québec, une dizaine d'années au cours desquelles conquérants et conquis s'acclimatent tant bien que mal les uns aux autres et s'adaptent aussi au nouveau pays dorénavant baptisé Québec. Alors, dans l'accalmie qui succède à 7 années de conflits intercoloniaux et de problèmes économiques, les Canadiens font l'apprentissage des lois et des institutions anglaises. Ils vont débattre de la langue, ils vont découvrir l'imprimé, ils vont s'engager donc dans des pétitions, des chansons, etc. Et nous avons repris un certain nombre de textes qui ont été glanés dans la première Gazette, mais aussi dans d'autres imprimés, d'autres fonds d'archives qui rappellent donc cette époque. Époque tampon entre la guerre de 7 ans et la guerre de l'indépendance américaine. Vous savez que donc, bien que majoritaires démographiquement, les francophones se retrouvent minoritaires dans la fonction publique et dans les jurys. Mais ils comprennent très vite que, dans ces mêmes instances, les marchands anglais cherchent à les berner en tirant parti d'une meilleure connaissance de la loi et de l'anglais. Alors, l'examen des premières pétitions témoigne justement de la frustration des nouveaux sujets qui ne veulent pas être perçus comme des citoyens de seconde zone et l'ardent désir qu'ils ont de défendre leurs droits en faisant l'apprentissage d'un nouveau système juridique. Alors, je vous passe sur les exemples. J'essaie d'aller un peu plus vite, simplement pour vous dire que nous avons là déjà le thème et la matrice argumentative de la plupart des revendications futures de l'acte de Québec à la première constitution et même, naturellement, jusqu'aux rébellions de 37-38. Déjà donc en germe, le rapport ambigu des Canadiens avec l'anglais selon qu'il est à Londres ou qu'il sévit dans la province. Alors, 2 témoignages d'étrangers ne manquent pas d'intérêt aussi sur cette époque, ceux de Francis Moore Brooke et celui de Pierre de Salles-Laterrière. Si ce dernier finit par s'installer dans la colonie, Frances Moore Brooke, elle, est bientôt rentrée en Angleterre, où son livre « The History of Emily Montagu » a connu un franc succès au point de devenir une lecture obligée pour les villégiateurs au Canada. En voici un extrait évoquant les Canadiens, ici nommés « Français » par elle. Donc, les Françaises, elle veut dire les Canadiennes, sont belles et les Français n'y sont point dangereux, parce qu'elle a eu peur en arrivant au Québec d'être violentée, peut-être. Ils le sont si peu que je pourrais me promener sans risque au clair de lune et le plus élégant d'entre eux, avec le plus élégant d'entre eux. Elle ajoute « Je ne suis pas étonnée que les Canadiennes prennent tant de peine pour nous enlever nos cavaliers, mais je ne pense pas que nous ayons jamais la tentation d'user de représailles. » Alors, la Terrière, lui... médecin et mémorialiste, c'est le premier mémorialiste de notre corpus, et j'ai risqué sur lui une biographie romancée voilà quelques années. La Terrière nous a laissé un important témoignage sur cette époque où, dans la jeune vingtaine, il était tombé amoureux du Québec et des Québécoises. Évoquant son premier séjour au Paris du Canada, c'est comme ça qu'il appelle Montréal, il écrit « Jamais je n'ai connu une nation aimant plus à danser que les Canadiens ». Ils ont encore des contredanses françaises, des menuets qu'ils entremêlent de danses anglaises. Les nuits durant l'hiver qui durent 8 mois se passent en fricot, souper, dîner, bal. Les dames y jouent beaucoup aux cartes, etc. Donc il me dit, dans toutes les sociétés, en mon nouveau petit Paris américain, il fallait commencer par le jeu. Et il insiste beaucoup sur le sexe, c'est un séducteur. Il écrit « le sexe », il veut dire le beau sexe à l'époque, c'est-à-dire quand on disait le sexe, c'était les femmes. « Le sexe y est très beau, poli et fort insinuant. Ma jeunesse et les manières européennes du dernier goût dont j'étais entièrement pétri me le faisaient désirer partout, et si j'avais pu résister à la fatigue de tous ces plaisirs, si ma seule occupation ne m'en avait pas empêché, j'aurais été dans les fêtes les jours et les nuits. » Alors, un tableau un petit peu fantasmé du Montreal by Night en 1766, mais ça fait partie des témoignages qu'on retrouve chez lui. Chez La Terrière, donc, comme chez Moore Brooke, l'observation trahit aussi la sensibilité du temps, esprit des Lumières chez La Terrière, pré-romantisme chez Moore, avec toujours le même étonnement pour les usages du pays. Mais la paix ne dure pas longtemps et bientôt commence la seconde guerre de 7 ans, la révolte donc des colonies américaines, et nous avons une série donc de points que je vais aborder rapidement dans la période que j'appelle donc l'invasion des lettres de 1775 à 1783. Alors c'est on pourrait dire les vrais débuts du fait littéraire, parce que ça se situe entre l'invasion militaire de la province par les Bostonnais. Vous savez que les Américains ont occupé le Québec pendant 9 mois, entre novembre, grosso modo, 1775 et juin 1776, et que Montréal a été une ville américaine dont le QG de l'armée était le musée Ramsay. Alors, nous avons, ce qui est intéressant pour nous, c'est que pendant cette époque, nous avons été soumis à un déferlement d'écrits de tout genre, propagande, pamphlets, polémiques, poèmes, récits, énigmes, chansons, et que soufflait alors sur la province vraiment l'esprit des Lumières. La pensée philosophique animait le second périodique, la Gazette littéraire de Montréal, qui avait été fondée donc l'année même de la mort de Voltaire. Et cet hebdomadaire a fourni l'essentiel des textes littéraires de cette époque jusqu'à ce que les animateurs et les collaborateurs soient enfermés en prison. Alors donc, en mai 75, vous savez, la guerre est décidée avec à sa tête George Washington, et l'armée continentale envahit le Québec dans l'espoir que les Canadiens vont se joindre aux rebelles. Et à cette fin, donc, on a toute cette série de propagandes imprimées en français qui nous intéresse parce qu'elle est d'inspiration révolutionnaire, mais aussi parce qu'elle interpelle pour la première fois les Canadiens comme nation, comme nos amis et nos concitoyens. Elle leur parle de liberté, de pacte social, de république, de peuple, de nation. Et nous avons des témoignages effrayés de 2 notaires, l'un à Trois-Rivières, notaire Badeau, et un autre à Montréal, Simon Sanguinet, qui se désespère de voir l'impact qu'ont ces lettres sur les Canadiens et qui atteste donc de l'efficacité de cette propagande dans les milieux urbains comme les milieux ruraux. Il faut dire que pour avoir une idée du ton de cette propagande, vous avez George Washington qui appelle les Canadiens « mes chers confrères », qui appelle à se joindre à la Révolution, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans les couches analphabètes de la population, on a des preuves que les idées nouvelles font leur chemin par le bouche à oreille, parce qu'à l'époque, on lisait à haute voix aussi la presse, etc. Et on avait toute une série de manifestations, de rébellions, dont témoignent donc les textes de cette époque, et notamment des textes de personnages qui ont été liés de très près à l'arrivée des Américains, comme le journaliste Valentin Jotard. Donc tous ces textes tournent autour de cette invasion, dont les conséquences les plus appréciables furent l'arrivée d'un imprimeur à Montréal, puisque Fleury Méplet, l'imprimeur du Congrès, au moment où les Américains se retirent et reviennent à Boston en juin 1776, Fleury Méplet décide de rester à Montréal avec ses presses et avec l'appui de la population des Montréalistes, c'est comme ça qu'il s'autodésignait à l'époque, il va fonder ses presses et créer donc une gazette, la Gazette littéraire de Montréal, dont vous voyez un exemplaire d'une page frontispice, celle du 21 octobre 1778, qui, de façon très symptomatique, porte sur la censure, pour ou contre la censure, et ils vont être très brillants, ces journalistes, parce que pour contourner la censure, ils vont utiliser la mort de Voltaire en commentant par des lettres de lecteurs que souvent ils écrivaient eux-mêmes, la philosophie de Voltaire. Comment vont-ils s'y prendre ? Une semaine, ils vont publier des lettres contre Voltaire, la semaine suivante, des lettres pour Voltaire, et ils vont s'arranger pour que l'argumentation la plus brillante soit toujours pro-Voltaire, naturellement, de façon à faire passer les idées des Lumières dans la population. Et on a, à travers eux, mais à travers d'autres écrivains comme Pierre Huet de La Vallinière, des marques, si vous voulez, de révolte. Le prêtre Pierre Huet de La Vallinière va même appuyer de façon plus marquée les quelques Canadiens qui auront pris fait et cause pour les Américains, et il va devenir leur aumônier presque, et il va même, quand il va rentrer en France, préconiser dans un mémoire adressé au comte de Vergennes la reconquête du Canada par la France. Alors, si ceci ne se produisit pas, il reste que chez les lettrés les plus libéraux, les esprits étaient chauffés à blanc, et cette effervescence va éclater dans la période suivante, la période 1784-1796-93, où on va avoir une montée, si vous voulez, de la contestation concernant justement le fait que les Anglais n'ont pas encore donné de parlement à cette colonie. Alors, ça se manifeste dans tous les débats, débats sur la future constitution, débats sur l'université, débats sur la censure, sur l'éducation des femmes, sur le théâtre, et sur le théâtre en particulier, on pourrait noter qu'il y a eu quelque chose d'assez intéressant dans la mesure où il était interdit, vous savez, le théâtre en Nouvelle-France depuis Monseigneur de Saint-Vallier à la fin du XVIIe siècle. La représentation théâtrale n'avait survécu que dans des exercices pédagogiques. Et ce qui se passe quand, au début de la conquête anglaise, c'est que le théâtre de garnison, le théâtre des militaires, va prendre le relais des représentations théâtrales, et chaque hiver, les officiers anglais vont se distraire et divertir la population canadienne en donnant un répertoire francophone sur lequel les autorités religieuses n'ont pas de prise. Alors on va jouer Molière, Le Bourgeois Gentilhomme, Le Médecin Malgré Lui, Les Fourberies de Scapin, mais bientôt, des amateurs canadiens vont aussi fonder une troupe et ils vont fonder le théâtre de société avec Joseph Quesnel et une série d'amis. Ils vont fonder aussi les Jeunes Messieurs Canadiens. Et là, on va jouer aussi Molière. Mais ce qui est intéressant, on va jouer du Joseph Quesnel. Joseph Quesnel est un marchand d'origine française, mais qui est installé au Canada, donc, et qui en plus d'être marchand de fourrure et d'être va animer la vie intellectuelle de l'époque et va créer une première comédie qui est le premier opéra, on pourrait opérette, disons, la première comédie mêlée d'Ariette, Cola Collinette, que certains d'entre vous ont pu entendre en partie tout à l'heure avant le début de la conférence et qui est une pièce très intéressante qui, dans l'esprit des petites comédies mêlées d'Ariette que jouaient à la même époque, donc qui se jouaient en France chez Grétry et même chez Mozart, une comédie qui, malgré l'innocence de cette petite comédie, a provoqué toute une polémique. Parce que, naturellement, dans la Gazette de Montréal, on a eu des protestations contre cette montée du théâtre. Et il y a eu des polémiques que nous reproduisons, notamment au sujet de la réaction du curé de Montréal, Monsieur Désery, qui avait excédé les bornes de la modération évangélique en menaçant de refuser les sacrements aux ouailles montréalistes qui assisteraient au spectacle. Alors, on a retrouvé toute cette polémique qu'on a reproduit dans cette anthologie sur le premier opéra comique du corpus et aussi les poèmes de Joseph Quesnel qui déplore avec son ami Labadie, instituteur, le peu d'intérêt que les Canadiens vouent encore à leur vers. Donc on a toute une série de guerres de mots, de polémiques aux côtés de Quesnel, avec des écrivains canadiens aussi de naissance, qui vont exercer, si vous voulez, leur droit de parole. Parmi les textes les plus marquants de cette époque, il y a celui de Pierre du Calvet, qui s'appelle « L'appel à la justice de l'État ». Publié à Londres, parce que Ducalvé n'arrive pas à obtenir justice au Québec, donc il va aller à Londres pour dénoncer le gouverneur de la province, et il va dénoncer la façon, dit-il, dont les peuples foulés gémirent, leurs clameurs redoublées s'élevèrent de toutes parts, et il en appelle au Canada, à l'Angleterre et à l'Europe entière, qui ne se doute pas qu'une malheureuse colonie conquise ait été convertie par les conquérants en coupe-gorge générale, dit-il, où les citoyens ont à trembler pour leur vie jusque chez eux. Donc ça, c'est toute la rhétorique, si vous voulez, de Pierre Ducalvet, qui était un juge et qui s'était élevé contre les magouilles des autres juges dans la colonie. Un autre texte aussi très intéressant, c'est celui de Charles-François Bailly de Messin, qui était le coadjuteur de l'évêque de Québec et qui a eu le courage de contredire son évêque quand il s'est agi de fonder une première université dans la province. Une université qui aurait été même avant celle de McGill, puisque le franc-maçon Simon Sanguinet aurait donné une partie de sa fortune pour doter cette université. Et malheureusement, ça n'a pas abouti parce que la famille l'a fait passer pour fou et a donc bloqué son héritage. Mais on avait là, si vous voulez, des manifestations, si vous voulez, d'émancipation assez marquées, dont je pourrais vous donner des extraits, mais je vois que l'heure file. Je voudrais vous parler aussi d'un autre texte très important dont le titre est tout un programme, La Bastille septentrionale de Henri-Antoine Mézières, né à Montréal lui aussi, et qui lui aussi, chez Fleury Méplé, va publier en 1791 une dénonciation de l'injustice dans la province et dans des phrases du genre « Aujourd'hui, mon voisin est chargé de chaînes et demain, compagnon malheureux de sa captivité, je gémirai avec lui sur l'injustice de notre sort. Étouffons donc l'hydre horrible de la persécution avant sa formation entière, etc. etc. » Donc ce sont des textes tout à fait dans l'esprit donc des textes de philosophes du XVIIIe siècle, une période de grande effervescence donc socioculturelle qui va être suivi malheureusement d'une sévère réaction. L'incertitude va gagner des esprits et l'on va hésiter dorénavant à exprimer ses convictions dans un climat rongé par la méfiance, celui des années 1793-1799, que j'ai nommé avec mon équipe la valse hésitation, pour bien marquer justement la façon dont les Canadiens hésitent entre les idées révolutionnaires et puis le loyalisme à la couronne britannique. Donc cette dernière période est marquée par des textes qui vont soit intérioriser la censure, autocensure, soit composer avec une nouvelle doxa plus conservatrice. Et qu'est-ce qui provoque justement ce changement? Eh bien, c'est ce que nous avons ici dans la Gazette de Québec, l'avis de la sentence, puis de l'exécution de Louis XVI. Donc, et de Marie-Antoinette, bien sûr. Cela va provoquer dans la colonie une reprise en main des esprits par le pouvoir politique, comme par les autorités religieuses, comme le rappelle Robert de Rome dans son site web consacré à cette époque. Il dit, le 18 avril 93, la Gazette de Québec publie le récit de la mort de Louis XVI. Nous la voyons ici. La planche gravée illustrant cet événement paraît donc dans le magasin de Québec, le mot magasin pour magazine, bien sûr, de Québec. Et c'est que désormais, en guerre contre la France, l'Angleterre exerce un contrôle sévère sur l'opinion publique et tous ceux qui circulent dans le Bas-Canada, aussi bien les personnes que les rumeurs et les écrits. En témoigne amplement un dialogue de propagande, le Canadien et sa femme de François Babi, ainsi que la plupart des écrits de cette période. Les textes loyalistes défilent dans les journaux, comme ces étrennes du 1er janvier 1795 dans la Gazette de Québec, je cite, « La liberté cause en nos jours bien du tapage. La liberté avec sa sœur l'égalité font un effroyable ravage et font gémir par leur carnage l'humanité. » Soumis aux lois, ici dans un sens politique, soumis aux lois, le sujet jouit de tous ses droits, du gouvernement britannique, admirons la sage fabrique, les justes rois. Ça, c'est le modèle donc des textes loyalistes. Alors que se passe-t-il pour les autres auteurs, les auteurs encore dotés de quelque esprit critique? Eh bien, ils hésitent, on les comprend, à prendre position. Force est de composer avec la censure et les pressions du milieu. Témoins ces variations de mentalité, les prises de position formulées dans les étrennes publiées le 1er janvier et qui font souvent le bilan politique de l'année précédente. Alors dans celle de janvier 1793, c'est intéressant parce que on ne sait pas encore quel est le sort de Louis XVI. Là, on n'a pas encore appris la mort de Louis XVI et on peut lire des vers pro-républicains qui vont être pratiquement les derniers vers pro-républicains de l'époque. Je vous les lis. Un pays autrefois soumis au despotisme, la France, d'un spectacle imposant étonne l'univers et de la tyrannie ayant brisé les fers, s'achemine hardiment au républicanisme. Les despotes voisins, c'est-à-dire les Anglais, unissant leurs efforts d'un monarque déchu embrassant la défense, déploient en sa faveur les funestes ressorts dans leur dangereuse puissance. Quels seront les effets de ces hauts attentats? Sous un sceptre de fer remettront-ils la France? Donc voilà des textes pro-révolutionnaires, mais il va sans dire que ces textes, ce texte fait exception. N'eût été de quelques audaces dans la presse, notamment au sujet de l'éducation féminine, cette fin de siècle apparaîtrait bien terne aux lecteurs d'aujourd'hui. Toutefois, à propos des femmes, il faut souligner l'intérêt de plus en plus grand manifesté dans les textes pour l'éducation des jeunes filles. Ainsi, une certaine Sophia critique dans la presse l'irresponsabilité et l'inconscience des hommes. Selon elle, il faudrait d'abord revoir entièrement la propre éducation de ses compatriotes. Elle dit « c'est souvent en raison de leur manque flagrant de savoir-vivre et de leur inadaptitude à la vie familiale qu'ils laissent leur conjointe à elle-même et les conduisent à trahir les emblèmes du féminin », comme elle disait. Le 2 décembre 1795, on retrouve même une référence directe au discours féministe européen de l'époque. Julie Roy a retrouvé ce texte paru dans le Cours du Temps à Québec, où l'on publie une critique favorable au livre de l'écrivaine anglaise Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Right of Woman. Donc le Québec était vraiment en prise avec les idées, et même les idées pré-féministes à cette époque-là. Mais pour le reste, ces dernières années du siècle XVIII sont celles de l'éloquence religieuse, avec les sermons de Joseph Octave Plessis, qui lui est farouchement opposé aux Lumières, bien sûr, et aux idées républicaines. Plessis est né juste après la cession, vous le voyez, du Canada en 1763. Le mot cession est important. D'ailleurs, on tend de plus en plus à parler de cession plutôt que de conquête, puisque vous savez que c'est en fait un abandon de la part de la France qui a préféré garder les Antilles alors que les Anglais auraient pu concéder le maintien du Canada à cette époque-là. Donc parler de cession, c'est une façon aussi de se déculpabiliser par rapport à la conquête. Donc né juste après la cession, ce Montréalais s'est distingué, Plessis, chez les Sulpiciens, puis au séminaire de Québec comme régent et dans des tournées paroissiales comme prédicateur. Ses sermons impressionnent par leur rhétorique néoclassique et par la vigueur dont Plessis fait preuve en chair. Je vous renvoie aux analyses rhétoriques qu'en a fait Marc-André Bernier. Cet art oratoire s'exprime dans toute son ampleur à deux occasions en particulier. Une, le décès du vieil évêque Joseph-Olivier Briand en 1794, et puis aussi au lendemain de la victoire de Nelson à Aboukir contre Napoléon en 1798, et c'est ce discours à l'occasion de la victoire remportée, etc. Alors, nous reproduisons aussi ces deux pièces maîtresses. Elles témoignent de l'excellente formation dispensée dans les collèges classiques par les professeurs de rhétorique à Québec, mais aussi du climat idéologique dominant en cette fin de siècle. Pour Plessis, les idées révolutionnaires sont une plaie qu'il faut guérir avant qu'elles ne gangrènent les Canadiens. Grâce à Dieu, selon lui, la conquête anglaise a épargné le Canada d'une déchéance où l'eût conduit le maintien sous la domination française. Plus et mieux que tout autre, Plessis construit ce qu'on a appelé le mythe de la conquête providentielle. Grâce à Dieu, les Anglais nous ont empêchés d'avoir la Révolution française. Il n'empêche que les mises en garde de Plessis témoignent de l'impact certain qu'eurent les idées nouvelles sur les lettrés canadiens. Je cite Plessis, qui s'exaspère de voir le progrès des idées des Lumières. Il dit « Ces barrières, une fois rompues, que devient l'homme, mes frères? Abandonné à sa raison dépravée, est-il égarement dont il ne soit capable? Jugez-en par ceux de nos concitoyens qui ont eu le malheur de donner dans les principes monstrueux des Diderot, des Voltaire, des Mercier, des Rousseau, des Volney, des Rénal, des D'Alembert et autres déistes du siècle. » Alors voilà, c'est aussi une preuve, à contrario, que ces idées avaient progressé dans la population. Alors, pour faire contrepoids aux rigueurs de l'éloquence religieuse chez Joseph-Octave Plessis, des pages plus légères témoignent aussi à l'époque de la persistance chez certains lettrés d'une certaine forme d'humour, voire de licence. C'est le cas, je vous avais épargné le portrait de Joseph-Octave Plessis, je m'en excuse, le voilà ici. Donc c'est le cas d'un autre auteur qui s'appelle Jacques Grasset de Saint-Sauveur, dont voici un des ouvrages licencieux. Jacques Grasset de Saint-Sauveur était né à Montréal, mais il a connu sa carrière. Il s'est exilé en France avec sa famille après la conquête. Et là-bas, c'est le premier Montréalais qui connaît un succès de librairie en France pendant la Révolution. Donc il va produire énormément d'ouvrages encyclopédiques, mais aussi des ouvrages libertins, comme, je cite, « Les amours du comte de Bonneval, Pacha à deux queues » ou « Hortense ou la jolie courtisane ». Alors voilà. Alors il était aussi illustrateur, et c'est d'ailleurs un des meilleurs illustrateurs de cette période-là. À l'heure actuelle encore, ses livres illustrés ont une cote très élevée dans les livres rares, et on trouve très peu de ces livres-là dans les collections, et ce sont des ouvrages de première importance. Donc là, c'est un livre plutôt libertin. Il est sûr que si ces textes de 96 n'ont probablement pas été diffusés largement au Canada, en revanche, l'extrait suivant des Extrêmes mignonnes est bien paru dans la Gazette de Québec le 1er janvier 1799. Je le cite, c'est un texte assez leste pour l'époque. « Fâché d'être pucelle à l'âge de 15 ans, qu'une jeune donzelle se procule en amant, eh bien, ouida, que certains militaires préfèrent les lauriers que l'on cueille à Cythère à des combats guerriers. Eh mais ouida, que le nom d'une ville dont le port est charmant soit pris par une fille pour cacher ses amants. Eh mais ouida. » Donc, dans un journal, 1er janvier 1799. Je conclus. Alors, je vais conclure plus sérieusement sur cette préhistoire des lettres canadiennes allant de la guerre de 7 ans au tournant du 19e siècle. On observe, on l'a vu, comment les Canadiens s'adaptent et tirent profit du nouveau système imposé par les Britanniques. Cette personnalité collective qui s'était forgée... Ah, on avait oublié son nom. bon, qu'il s'était forgé au terme de la Nouvelle-France. Les Canadiens l'expriment donc haut et fort pendant ces 40 ans. Les nouveaux sujets du Québec s'exercent au débat public. Il s'agit bien sûr de la fraction lettrée de la population francophone qui, en milieu urbain, s'engage dans des débats sur les affaires juridiques, politiques, religieuses, etc. La diffusion de l'écrit dans l'espace public est la première révolution tranquille des Canadiens. C'est ce que je défends dans mon essai. Fort habile dans ses formes et dans sa stratégie, cette révolution tranquille du verbe aboutit à des gains politiques majeurs quand Londres concède à ses conquis des droits linguistiques et religieux que l'acte de capitulation de 1760 n'aurait jamais laissé présager. Il est vrai que l'acte de Québec s'explique aussi par l'émancipation des colonies anglaises d'Amérique et le danger pour Londres de voir s'étendre ce mouvement chez les Canadiens. N'empêche, ces lendemains de conquête, dont une certaine historiographie dressera plus tard le plus sombre des tableaux, ne furent pas aussi désastreux pour la collectivité canadienne. Seule institution rescapée après le départ des administrateurs français, l'Église catholique, même affaiblie, a maintenu son pouvoir et la classe seigneuriale a su aussi se ménager une place et des places aussi dans l'appareil britannique. Mais m'intéresse surtout la façon dont la petite bourgeoisie marchande et professionnelle, d'abord fortement affectée par la conquête, fait bientôt son nid dans les réseaux commerciaux et sociétaux des anciens sujets. Nouvelles alliances d'affaires, intégration des loges maçonniques et quand la presse introduit les nouvelles idées, engagement ouvert dans les débats de société. Mon intérêt donc pour cette fraction de la population canadienne s'explique par le fait qu'on voit certains de ses membres intervenir auprès des instances gouvernementales pour revendiquer ses droits. Eh bien, ce mouvement civique trouve à s'exprimer dans des nouvelles gazettes qui fleurissent et où va se déployer l'invention littéraire avec les premiers poèmes, les premiers récits et aussi toute l'éloquence journalistique qui sera bientôt relayée, vous le savez, par l'éloquence parlementaire avec Louis-Joseph Papineau et la génération suivante qui va être la génération des patriotes. L'art oratoire religieux ne demeure pas en reste. L'étude de ces productions constitue donc le point fort de mon prochain livre qui sera une histoire littéraire des Canadiens perdus et retrouvés sur leurs arpents de neige. Et tout comme cette anthologie, cette histoire devrait, une fois pour toutes, infirmer, je l'espère, l'assertion de Lord Durham. Était-ce vraiment un peuple sans histoire et sans littérature? Merci. Si vous avez des points sur lesquels vous désirez que je revienne, que je n'ai pas pu développer, ne vous gênez pas, je suis à votre disposition.
Vous avez mentionné que les gens lisaient à haute voix à cette époque-là.
Oui.
Vous voudrez avoir des détails là-dessus.
Oui.
Et aussi, quel pourcentage de la population savait lire?
Oui.
Deuxième volet de ma question.
Très bien. Alors, sur le premier point, c'était pas propre au Québec ou au Canada. Je pense que même en Europe aussi, il y avait un taux d'analphabétisme très élevé. Mais il y avait aussi une pratique de lecture à haute voix. Les notables qui étaient abonnés aux journaux, qui les recevaient à la maison, les lisaient en famille, les lisaient entre amis. Et même les correspondances privées, quand on recevait des nouvelles du cousin ou de la tante ou du neveu entre Montréal, Trois-Rivières et Québec, il y avait, on a des témoignages sur lesquels il y avait une lecture à haute voix donc de ces nouvelles-là. Donc la chronique passait par là. Les autres témoignages qu'on a, c'est sur la propagande américaine à cette époque-là, qui était lue parfois sur le parvis de l'église même, puisqu'on a des condamnations des prêtres. Et il y a donc une diffusion très large de cette propagande. Et statistiquement aussi, on a pu établir que pour un abonné à un journal, il y avait à peu près 6 à 7 personnes qui avaient accès au journal, par le biais donc des prêts entre les gens du même journal et aussi par la lecture à haute voix. Quant à l'autre question statistique sur le nombre de personnes qui était capable de lire, c'est beaucoup plus difficile à établir parce que naturellement il n'y avait pas d'études statistiques à cette époque-là. En 1789-90, le gouvernement a essayé de lancer une vaste enquête sur les moyens faire avancer la culture, la langue, la littérature, etc. Et c'est le juge Smith qui a adressé une lettre à tous les notables et aussi à Monseigneur Hubert, qui était l'évêque à Québec, en lui demandant qu'est-ce qu'il pensait de l'idée selon laquelle beaucoup de gens dans les milieux ruraux, surtout, ne savaient pas lire. Et il lui demandait d'établir la proportion des gens qui savaient signer, parce qu'à l'époque, c'était le signe donc de l'alphabétisation, de pouvoir signer son nom et de ne pas faire une croix. Et après des mois d'hésitation et de retard, Monseigneur Hubert se fâche qu'on puisse mettre en doute les capacités du corps enseignant religieux et répond en quelque sorte que ce n'est pas des affaires du gouvernement de se mêler de cela et on n'aura pas, si vous voulez, ces statistiques-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la même enquête, le gouverneur, le juge en chef, William Smith, propose de créer une université. Et là, on va avoir des débats dans les journaux pour ou contre cette université. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et l'évêque dit « Non, on n'a pas besoin d'université. Les Canadiens ont assez de terres à défricher. On verra dans quelques générations. Et puis on n'a pas d'argent non plus pour fonder cette université. » D'où l'intérêt de la donation de Simon Sanguinet qui lui disait avant sa mort « Je donne une partie de mes biens pour fonder cette université. » Donc malheureusement, ça n'a pas abouti. Et un autre notable qui s'appelle James McGill va faire la même donation et ça va marcher de l'autre côté, si vous voulez. Alors je m'excuse de ne pas pouvoir répondre plus précisément sur ces questions de statistiques, mais je vous renvoie au travail important qui a été fait sur ces questions-là dans l'histoire du livre et de l'imprimé, sous la direction d'Yvan Lamonde et d'autres auteurs comme Gilles Galichon, etc., où vous avez des chapitres sur l'alphabétisation. Ce livre est à la bibliothèque, bien sûr, et vous pourrez avoir des chiffres précis là-dessus.
Vous avez mentionné une religieuse qui avait publié quelque chose de la Visitation, je pense.
Oui, Mère de la Visitation.
Il y avait aussi Marie de l'Incarnation. Est-ce que c'est la même époque ou un peu plus tard ?
Non, c'est avant. C'est bien avant.
Ah oui.
C'était au XVIIe siècle, effectivement, qu'on avait donc cette religieuse qui a produit des écrits très importants et de très beaux écrits, mais qui n'entrent pas dans le corpus de cette période-là et qui ont été découverts très tardivement. Mais effectivement, ce sont de superbes textes poétiques et naturellement religieux aussi très très forts, vous avez raison. Alors on les traiterait dans une période antérieure à la mienne.
Ah oui. Et est-ce que c'était courant à l'époque que les religieuses manifestent des opinions et qu'elles les publient ?
Oh oui, ça c'était vraiment une découverte pour nous. Nous avons justement une étudiante qui ne l'est plus maintenant, qui a fait sa thèse de doctorat là-dessus, Julie Roy, qui a donc produit un travail prodigieux de plus de 800 pages sur les écrits des femmes en Nouvelle-France et à la période qui m'intéresse. Et on est surpris de voir la maîtrise, naturellement, ça on le savait, la maîtrise des religieuses pour l'écriture, pour la prose, et pour non pas la poésie, mais pour les écrits concernant leur foi, mais aussi leur capacité à gérer, comme des entreprises, les couvents, les congrégations dont elles avaient la responsabilité, et aussi le courage qu'elles avaient à tenir tête à l'évêque quand l'évêque intervenait de trop près dans leurs affaires. Donc la thèse de Julie Roy, c'est de dire que finalement, entrer dans les ordres pour les religieuses était une façon de se libérer. des contraintes sociétales, familiales qui pesaient sur les femmes au foyer, ce dont les femmes vont se plaindre aussi dans la presse, comme je le disais tout à l'heure. Et c'était pour elles un choix délibéré d'une très grande liberté. Et c'est grâce à leur témoignage, effectivement, qu'on a une première page, si vous voulez, de littérature qui n'est pas uniquement une littérature religieuse. Donc c'est vraiment un corpus très intéressant aussi. Merci.
Oui, vous avez dit que dans le répertoire de John Huston, il n'y avait pas beaucoup de titres de cette période-là.
Antérieure à 1800, oui.
OK. Mais est-ce que les patriotes, qui sont la génération suivante...
C'est la génération suivante.
Oui. Oui. Est-ce qu'ils vont avoir comme référence culturelle ces œuvres-là ou est-ce qu'ils vont lire leurs prédécesseurs?
Alors c'est ça. Nous, à l'heure actuelle, l'étape de notre recherche, c'est d'établir ce que j'appelle le chaînon manquant entre la génération de la conquête et la génération des patriotes. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont connu, ils ont fréquenté cette génération par leur père. Par exemple, Papineau père faisait partie de la génération des premiers Canadiens qui vont aller en élection, qui vont avoir des débats parlementaires, etc. Mais tout ce que j'ai vu jusqu'à présent dans les écrits de l'autre génération, ce sont des références plutôt aux textes des Lumières, aux références françaises, etc. Et nous essayons maintenant de dépouiller les journaux de la génération des années 1820-1830 pour essayer de trouver des traces, des échos, si vous voulez, de la génération antérieure. Il faut attendre plutôt la troisième génération, celle de l'abbé Casgrain des années 1860-70, les poèmes de Crémazie, les poèmes de Louis Fréchette dans l'épopée canadienne, pour avoir, par exemple, les premiers poèmes où on présente comme héros Pierre du Calvé, par exemple, le martyr de la cause canadienne. Vous voyez, ça a pris un peu de temps avant qu'on redécouvre cette génération-là et qu'on lui accorde tout l'intérêt que nous lui accordons maintenant. C'est plutôt donc la génération suivante sous l'Union. Parce que sous l'Union, la réaction très vive qu'ont les Canadiens, les intellectuels canadiens à la défaite politique qu'a été les rébellions, la réaction, ça va être de se rabattre sur la chose culturelle et de se lancer dans une sorte de revanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, contre l'anathème de Lord Durham, en disant « Oui, oui, nous avons une littérature, nous allons faire une histoire », d'où l'histoire de Garneau, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un essor nouveau des choses littéraires et des choses culturelles, avec naturellement cette tension entre les ultramontains, d'une part, et les libéraux de l'Institut canadien de Montréal, libéraux qui sont un petit peu les héritiers de la pensée des Lumières au XVIIIe siècle.
Une petite question. Pour quelle raison vous parlez de collectivité canadienne et non pas de peuple, comme d'autres auteurs l'avaient mentionné?
Oui. Peuple, je l'ai employé aussi, puisque vous avez vu qu'on l'emploie à cette époque-là et que les Américains eux-mêmes interpellent les Canadiens comme peuple. L'expression « collectivité canadienne », c'est un terme plus neutre qui a été mis de l'avant par Gérard Bouchard, dont vous connaissez les travaux, et qui, lui, essaie de montrer comment toutes les collectivités neuves des Amériques, et même du Nouveau Monde, parce qu'ils s'intéressent aussi à la Nouvelle-Zélande, à l'Australie, etc., comment toutes ces collectivités se sont construites une mémoire commune, se sont donné des textes fondateurs, etc., et se sont donné aussi une mémoire longue avec une histoire courte. Alors, comme l'histoire de chacune de ces collectivités est différente d'un point de vue politique, certains ont acquis l'indépendance très tôt, d'autres plus tard, etc., quand il parle de l'ensemble de ces populations issues de mouvements migratoires vers le Nouveau Monde, il emploie l'expression « neutre collectivité ». Mais vous avez vu effectivement que la notion de nation fait toujours problème et qu'à partir du moment où on essaie de lui donner une coloration politique, elle provoque donc des réactions. Et donc ce n'est pas que je n'ai pas voulu m'embarquer dans une polémique, c'est simplement que j'ai pris le terme le plus neutre pour désigner cette collectivité au moment où elle se cherchait une identité. Alors je vous invite, si vous voulez en savoir davantage de choses, comme je le disais tout à l'heure, visitez le site de notre projet à Lac. Là-dedans, nous avons mis énormément de documentation, naturellement de chronologie, de bibliographie, etc., et certaines retranscriptions de textes. Vous allez avoir aussi des hyperliens qui vous conduiront à des fonds importants, aux principales bibliothèques, fonds d'archives, etc. Et pour ce qui est de la Société des 10, à laquelle je participe, vous avez aussi dans le site internet dont je m'occupe avec Dominique Plante une série de renseignements sur l'histoire de notre société, mais aussi, surtout très important, une grande partie des textes des cahiers des 10 depuis les origines qui a été numérisée. De façon encore insatisfaisante à nos yeux, puisqu'il faut pouvoir non seulement avoir accès au texte, mais faire des recherches sur le texte en images. Et nous avons un projet bientôt, j'imagine, qui pourra aboutir avec la Bibliothèque et Archives nationales du Québec d'une numérisation plus systématique de l'ensemble de ces cahiers qui, depuis 1935, ont fait faire d'énormes progrès en histoire culturelle du Québec et, je dis, de l'Amérique française aussi, puisque nous nous intéressons à la diffusion donc, de la francophonie à travers donc, toutes les Amériques. Voilà. Merci.